Lorsqu'on lit les évangiles, on découvre que le Seigneur Jésus-Christ, après son baptême, s'est entièrement consacré à ce qu'il devait faire, à sa mission. Sa mission, c'était de mourir pour les péchés de l'humanité, ressusciter victorieusement et monter au ciel, apporter son sacrifice pour nous sauver. Mais avant de mourir, il a vécu 3 ans et demi à peu près, et pendant ces 3 ans et demi, il n'a fait que du bien envers les autres, il s'est consacré aux autres en permanence, et il n'a quasiment jamais pensé à lui-même. Il disait, je n'ai même pas un endroit pour reposer ma tête. Et partout où il rencontrait une détresse, il intervenait. Il intervenait parce qu'il était le Tout-Puissant, hein, le Fils de Dieu. Il pouvait guérir, ressusciter. Mais surtout, il venait pardonner les péchés des personnes qui étaient rejetées, qui étaient dégoûtées de la vie. Combien de prostituées ont été transformées en le rencontrant, combien de publicains, ces collabos israéliens qui travaillaient pour le Romain, se sont tournés vers Jésus-Christ, ont été pardonnés, sauvés, transformés. Combien même de pharisiens, il y en a eu quelques-uns, qui étaient dans leur légalisme et qui ont découvert l'amour de Dieu. Combien de personnes, des lépreux aussi, abandonnés, qui étaient dans leur quartier réservé, qu'on n'avait pas le droit d'approcher, ont été purifiés, transformés. Le Seigneur a fait en 3 ans et demi plus que n'importe qui en toute une vie. Et on ne peut pas être indifférent à ce que notre Seigneur, notre Maître, ait agi ainsi. Si nous sommes disciples de Jésus-Christ, nous aussi, nous devons avoir une vie qui bénit les autres, qui fait du bien, qui apporte l'amour de Dieu, qui va apporter aussi la transformation, hein, à ceux qui sont perdus. Et j'aimerais qu'on regarde un grand chapitre de l'amour qui est 1 Corinthiens chapitre 13 et qu'on découvre ce que Dieu veut dire par aimer les autres. Si vous avez votre Bible, je vous encourage de suivre avec moi, verset par verset, le grand chapitre de l'amour, 1 Corinthiens chapitre 13. Un chapitre un peu controversé, parce qu'il est au milieu de 2 autres chapitres sur le parler en langue et les dons spirituels. Et nous allons voir qu'il a un but et un rôle très important pour le chrétien et pour nous encore aujourd'hui. Je vais lire les 3 premiers versets. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Cela ne me sert à rien. Dans ses premiers versets, il dit « Sans l'amour de Dieu, ma vie ne sert à rien. Ma vie est inutile, ma vie est stérile. » Combien de personnes sont stériles, spirituellement parlant, c'est-à-dire ils ne vivent que pour eux-mêmes. Lorsque j'étais athée, lorsque j'étais éloigné longtemps du Seigneur, de mon Dieu, de mon Créateur, je vivais pour moi-même et par moi-même. Et ça marche quelque temps, c'est-à-dire pendant quelque temps, vous vous amusez bien. Vous dites, ah, vous êtes satisfait de faire ce qui vous plaît, ce qui vous intéresse, vous, de ne pas avoir un Dieu qui vous dit, voilà, il faut faire ça, il faut faire ça, de ne pas aussi avoir à aider les autres. Nous qui vivons en France, et peut-être particulièrement à Paris, hein, quand on a un peu d'argent et qu'on est étudiant, on a tendance à être un peu gâté, n'est-ce pas? Et à dire je m'en fiche des autres, ce qui compte, c'est que je m'amuse. Et avoir cet itinéraire d'enfant gâté où on vit pour soi dans cet égoïsme, mais au bout d'un moment, on en a assez. Au bout d'un moment, on est un peu dégoûté et c'est là qu'il peut y avoir une repentance et une conversion. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est là que Dieu peut changer une personne et l'amener à devenir comme Christ. Sans l'amour de Dieu, je ne suis rien. Et il donne des exemples ici. Il prend comme exemple la parole, la connaissance, la foi et l'esprit de sacrifice. Si je n'ai pas l'amour, mes paroles ne vont pas apporter de bien. Si je n'ai pas l'amour, je peux avoir toute la connaissance, ça va mener nulle part. Si je n'ai pas l'amour, je peux même avoir une foi extraordinaire, ça va valoir zéro devant Dieu. Et si je n'ai pas l'amour, et c'est là qu'on est étonné, je peux même distribuer tous mes biens aux pauvres, ça ne sert à rien. Vous vous rendez compte de cette phrase ? Nous, en France, on est très sensible à distribuer nos biens aux pauvres. Et c'est dans l'Évangile aussi, hein ? Mais distribuer des biens aux pauvres sans l'amour de Dieu, sans la parole de Dieu, sans l'Évangile, la bonne nouvelle, ça ne les aide pas profondément parce qu'ils vont toujours en enfer. Ils sont toujours perdus dans leurs péchés. Et peut-être que vous allez les nourrir, mais avec un peu d'argent, ils vont aller s'enivrer encore plus. Ils vont avoir des maladies, ils vont avoir toutes sortes de choses, mais avec l'estomac plein. Et ce qui doit changer, ce n'est pas seulement de donner à manger, mais c'est la mentalité de tout le monde, des riches comme des pauvres. Pour changer la mentalité, il faut avoir l'amour de Dieu dans sa vie. La parole, parler sans l'amour de Dieu. Les Corinthiens étaient très impressionnés par les grands discours des orateurs grecs. Corinthe était un centre culturel, comme on pourrait dire Paris, New York et d'autres villes, et on allait écouter les grands orateurs. Et les grands orateurs, ce n'était pas tellement ce qu'ils disaient qui était intéressant, c'est la façon dont ils le disaient. Ils employaient des tournures de phrases, ils avaient des gestes, ils avaient la rhétorique. Et les Corinthiens étaient fascinés, ils disaient « qu'est-ce qu'ils parlent bien ?» Ça me fait penser à ce chrétien qui est allé à Londres à la fin du 19e siècle et il y avait deux grands pasteurs qui prêchait le dimanche après-midi, et il devait choisir. Il était juste en visite, il s'est dit « Oh, j'aimerais écouter celui-là. Oui, mais celui-là aussi, il est connu. » Et puis, finalement, il apprend qu'il y en a un qui prêche le matin et l'autre l'après-midi, donc il peut écouter les deux. Et son ami lui dit « Alors, qu'est-ce que tu as pensé des deux grands pasteurs que tu as écoutés ?» Il dit « Eh bien, j'ai été vraiment impressionné par le premier, le matin, par sa personne, son éloquence, sa façon de... Son charisme, vraiment très impressionnant. » D'accord, hein, et le second, alors, pas bien. Non, le second, il m'a impressionné par son Dieu. Ce n'est pas l'homme qui l'a impressionné, c'est le Dieu de ce pasteur. Et les Corinthiens s'étaient trompés d'admiration. Ils admiraient les hommes. Ils admiraient l'éloquence. Et Paul dit, vous pouvez avoir les plus belles paroles. Vous pouvez même parler comme les anges. Et pourquoi il parle des anges, là? Non pas qu'il y ait une langue des anges. Quand vous lisez la Bible, les anges, ils parlent toujours dans une langue compréhensible. Ils ne parlent pas en langue spéciale, les anges. Ils parlent la langue que les humains comprennent. Mais les anges, pour les Grecs, c'était cette puissance. Et pour les Juifs aussi. Hein. Quand ils parlaient, tout le monde tombait par terre. Hein. C'est arrivé plusieurs fois dans la Bible que quand un ange s'est mis à parler, la personne est tombée par terre. Et ça, les Corinthiens, ils rêvaient de ça. Quand je parle, les gens vont tomber par terre. Et Paul dit... Vous pouvez avoir cette éloquence des anges si vous n'avez pas l'amour de Dieu. Ça vaut rien aux yeux de Dieu. Vous êtes dans l'orgueil, dans la chair, mais vous n'apportez pas de fruits dans la vie des gens. Pareil pour les prophéties, pareil pour la connaissance. On peut avoir une tête comme ça avec la Bible, les commentaires bibliques, le grec, l'hébreu, j'en passe. Et c'est important de connaître la Bible, de connaître Dieu, d'étudier. Mais si c'est sans l'amour de Dieu, la Bible dit, la connaissance enfle, mais l'amour édifie. J'aime beaucoup ce verset. La connaissance enfle l'orgueil, mais l'amour édifie les autres. Dieu ne veut pas qu'on s'enfle nous-mêmes, il veut qu'on édifie les autres. Et puis, il parle aussi de la foi. Il y a des gens qui ont une foi extraordinaire quand ils prient, ils demandent des choses impossibles et ils y croient vraiment. Mais attention, la foi doit aller avec l'amour. S'il n'y a pas l'amour de Dieu, ça devient encore une fois la recherche du spectaculaire. Il y a des chrétiens qui veulent du spectaculaire. Dieu existe, alors je veux qu'il y ait des miracles tous les jours. Je veux le voir avec mes yeux. Mais qu'est-ce que dit la Bible ? Nous l'aimons sans l'avoir vu. La foi, c'est l'inverse de voir avec ses yeux. Il dit, hein, nous ne vivons pas par la vue, nous marchons par la foi. Encore une fois, si on a la foi, mais sans l'amour de Dieu, sans l'amour pour Dieu et l'amour avec Dieu, cette foi, c'est de l'orgueil. Et puis, si on se sacrifie sans l'amour de Dieu, on dit, mais comment peut-on se sacrifier sans l'amour de Dieu ? Mais ça existe, regardez, les kamikazes islamistes. Ils se sacrifient, ils portent des bombes et ils se font sauter. Qu'est-ce qui les motive ? La haine, mais la haine viscérale, la haine absolue, contre l'infidèle, contre l'israélien, contre l'occidental, l'américain, tout ce que vous voulez, le croisé. Et à fond dans sa haine, il se sacrifie. Mais aux yeux de Dieu, bien sûr, c'est vain. Il ne va pas aller au paradis d'Allah, il va aller là où vont tous ceux qui sont perdus, tous ceux qui sont sans l'amour de Dieu. Par contre, il y a des chrétiens dans le monde qui meurent pour leur foi. Ça a commencé par le Seigneur Jésus lui-même, par les apôtres, qui sont morts. Ils sont morts pourquoi ? Ils sont morts parce qu'on les a tués. Et ils sont morts dans quel état d'esprit ? Ils sont morts en aimant, en apportant l'amour de Dieu à ceux qui les tuaient, qui les torturaient. Il y a des dizaines d'histoires dans l'histoire, de récits dans l'histoire de l'Église, de personnes qui pardonnent à leurs bourreaux. Il y a d'abord le Seigneur Jésus qui dit « pardonne-leur hein, » quand on lui plante les clous. Mais il y a aussi Étienne, hein, lorsqu'il est lapidé, qui voit le Seigneur et qui dit aussi « pardonne-leur ». Mais il y a aussi dans les premiers siècles, hein, des femmes notamment, qui, alors qu'on les torturait pour qu'elles renoncent à leur foi et qu'elles se soumettent à César, hein, le dieu de l'époque, qui ont été torturées à mort et qui ont pardonné à leur bourreau. Je me souviens aussi dans l'histoire des anabaptistes, ces chrétiens qui étaient aussi torturés. Il y en avait un, on lui avait coupé la langue, on l'avait écartelé sur la roue, vous savez, on vous écartèle et ensuite on vous tape avec un bâton jusqu'à ce que tous vos membres soient brisés. Il n'était pas encore mort, ils ont fini par le brûler, ils l'ont attaché à un poteau pour le brûler vif, et sur ce poteau, il a encore exprimé, comme il pouvait, l'amour de Dieu et le pardon. Et ceux qui ont relaté, qui l'ont vu, hein, parce qu'il y a des gens qui relataient tout, ils ont dit, j'ai jamais vu mourir un homme comme ça. C'est impossible de mourir comme ça, dans la grâce de Dieu, alors qu'on vous a torturé à petit feu. Ça, c'est l'amour de Dieu. Ça, c'est le vrai sacrifice. Mais nous ne sommes pas appelés forcément à nous sacrifier de cette façon. Nous ne sommes pas persécutés violemment pour notre foi en France. Mais le Seigneur veut qu'on aime et qu'on donne. Le mot « aimer », le mot « amour » dans ce chapitre a été traduit dans l'ancienne Louis II par « charité ». On s'est empressé de l'enlever avec les révisions du texte parce que « charité » aujourd'hui a un autre sens. « Charité », c'est donner quelques piécettes à un SDF. Mais la charité dans la Bible, c'est une autre forme d'amour. Il y a l'amour filial, l'amour de l'amitié, il y a l'amour sexuel, et il y a un mot pour chacun de ces choses, en grec en tout cas, mais l'amour, là, agapé, c'est la charité. Et la charité, c'est cet amour qui se donne. Ce n'est pas un amour de sensation, de sentiment qui dit « Oh, je ressens une chaleur pour toi, je t'aime, je pense que je t'aime. » Non, c'est l'amour qui dit « Je vous aime et je vais donner ma vie pour vous. » C'est ce que Dieu a fait en la personne de Christ. Et si on a cet amour, on va faire pareil. On va se donner aux autres. Si je suis disciple de Christ vraiment, est-ce que je suis motivé par l'amour ? Est-ce que c'est ça qui motive ma vie ? Quand je vais à l'église, est-ce que je suis motivé par l'amour ? Est-ce que je vais à l'église par amour ? Est-ce que quand je suis au travail, je travaille dans l'amour de Dieu. Dites, pas facile ça, parce qu'il y a des pressions, il y a des gens, il n'y a pas beaucoup de chrétiens au boulot. Oui, mais on peut travailler dans l'amour de Dieu, porté par cet amour, parce que l'amour de Dieu, il ne s'arrête pas, il n'a pas des heures. Hein. On dit, hop, de 8h à 18h, on fait une pause parce que tu dois travailler. Non, L'amour de Dieu, il est là, avec les clients, avec le patron, avec les collègues, avec son ordinateur qui ne marche pas, ou je ne sais pas, mais on peut avoir l'amour de Dieu en tout instant. Et puis, quand on est dans sa famille, est-ce qu'on est motivé par l'amour quand on parle à son conjoint, quand on parle à ses enfants? Est-ce qu'on est conduit par cet amour de Dieu? Ou est-ce qu'on l'oublie complètement? Et on y pense quand on va à l'église et qu'il y a un message du pasteur, on dit « Ah oui, c'est vrai, l'amour quand même, c'est important. » Mais ce n'est pas le dimanche matin l'amour qui est important, c'est tous les jours, parce que c'est la charité. La charité, c'est l'action de l'amour en permanence. Qu'est-ce que l'amour selon Dieu? C'est les versets 4 à 7. Et j'aimerais vous le lire dans la transcription Parole vivante d'Alfred Kuhn. Les versets 4 à 7 dans cette transcription disent « Celui qui aime est patient, il sait attendre, son cœur est largement ouvert aux autres. Il est serviable, plein de bonté et de bienveillance. Il cherche à être constructif et il se plaît à faire du bien aux autres. L'amour vrai n'est pas possessif. Il ne cherche pas à accaparer. Il est libre de toute envie. Il ne connaît pas la jalousie. Lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se faire valoir. On n'agit pas de manière présomptueuse. Celui qui se rengorge, s'étale et s'enfle d'orgueil n'est pas inspiré par l'amour. Aimer, c'est aussi se conduire avec droiture et tact. L'amour prend des égards et évite de blesser ou de scandaliser. Il n'est pas dédaigneux. Celui qui aime ne saurait agir à la légère ou commettre des actes inconvenants. Aimer, c'est ne pas penser d'abord à soi. C'est ne pas chercher son propre intérêt, insister sur ses droits. Non, l'amour n'est pas irritable. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il n'est pas susceptible. Quand on aime, on ne médite pas le mal et on ne le soupçonne pas chez les autres. Si on subit des torts, on n'en garde pas rancune. Découvrir une injustice ou voir commettre le mal ne fait pas plaisir à celui qui aime. Il se place du côté de la vérité et il se réjouit lorsqu'elle triomphe. L'amour couvre tout. Il souffre, endure, pardonne. Il sait passer par-dessus les fautes d'autrui. Aimer, c'est faire confiance à l'autre et attendre le meilleur de lui. C'est espérer sans faiblir, sans jamais abandonner. C'est savoir tout porter, tout surmonter. Il n'y a presque pas besoin d'explication, il y a tout là. Vous avez compris là dans ce passage que l'amour, ce n'est pas des sentiments. C'est des actions, c'est des attitudes de cœur. Et nous, on reste tellement dans les sentiments. Et si je n'ai plus de sentiments, je te laisse tomber. Pourquoi y a-t-il un mariage sur deux qui finit en divorce dans le monde? Pourquoi? Parce que on ne sait pas ce que c'est aimer un autre, une autre personne selon la charité, selon Dieu. On a des sentiments. On va ensemble, allez, on va habiter ensemble. Et puis après, les sentiments tombent un jour ou l'autre. Et puis, les sentiments peuvent accrocher une autre personne qu'on croise. On dit, ah ben, j'aime l'autre, je t'aime plus. Bon, ben, au revoir. Et on se sépare. Et ça fait des drames profonds, en fait. Parce que on s'attache à quelqu'un. On pense qu'on va construire quelque chose. Et puis, un jour, c'est bye-bye. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Ben, rien, mais je t'aime plus. Alors, il vaut mieux qu'on se quitte. La charité n'est pas ça. La charité, elle s'engage, elle se donne, elle cherche le meilleur de l'autre. Elle ne cherche pas son intérêt, son droit, vous l'avez entendu comme moi. Dans la suite du chapitre, il va parler des dons permanents et des vertus éternelles. Je vais lire le verset 8 et le verset 13. Verset 8, « L'amour ne périt jamais, les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. » Verset 13. « Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » Ce qu'on voit en étudiant ce chapitre, c'est que ici le Saint-Esprit fait une différence entre les choses temporaires et les choses permanentes et éternelles. Il y a des choses temporaires et ce n'est pas la peine de s'y attacher parce que c'est temporaire. Et c'était le problème des Corinthiens en particulier. Qu'est-ce qui est temporaire, verset 8 ? L'amour ? Non, l'amour ne périt jamais, dit-il. Donc, l'amour n'est pas temporaire. Mais ensuite, les prophéties seront abolies. Les langues, hein, le parler en langue cessera. La connaissance sera abolie. Les mots qu'il utilise là, les langues cesseront, par exemple, c'est un mot qui veut dire s'éteindre. Les langues vont s'éteindre. Et si vous lisez un livre d'histoire de l'Église sérieux, vous verrez que le parler en langue s'est éteint. Très vite. Il a été revivifié par certains chrétiens, montanistes notamment, mais, et puis plus tard par le mouvement pentecôtiste, au début du XXe siècle. Mais les langues se sont éteintes. Les prophéties aussi seront abolies. Pourquoi les prophéties vont aussi disparaître ? Parce que quand le Nouveau Testament a été terminé, il n'y avait plus besoin de prophètes, puisqu'il y avait toute la révélation de Dieu. Et les prophéties aussi se sont éteintes, au point que Paul écrit que les prophètes étaient la fondation de l'Église. La fondation, on ne la construit pas jusqu'au toit, hein, à mon avis. Je ne suis pas un grand maçon, mais je sais que les fondations, ça reste en bas. Et après, c'est les murs. Donc, les prophètes ont servi de fondation. Il fallait une fondation, une révélation pour fonder l'Église. Où est-ce qu'on va ? Qu'est-ce qu'on croit ? Qu'est-ce que Dieu veut ? Ça, c'est la Bible qui le dit. Après la fondation, on bâtit les murs jusqu'au retour du Seigneur. Et puis même la connaissance sera abolie. Et là, il ne parle pas de la connaissance en général, mais comme toujours, il parle du don spirituel de connaissance, qui était un don d'avoir une révélation personnelle et particulière de Jésus-Christ, de Dieu. Et c'était un don que certains avaient et qu'ils faisaient partager avec les autres. Il dit même ce don va s'éteindre aussi, va disparaître. Pourquoi ? Parce que tous, on a le même Saint-Esprit, on a la parole de Dieu, on peut tous connaître profondément Dieu. Il n'y a pas une élite, tiens, eux, ils ont vraiment un don, alors eux, et Dieu s'est révélé à eux spécialement. Tous, on peut avoir accès au Seigneur. Maintenant, qu'est-ce qui est permanent ? Verset 13, il y a trois choses, est-ce que vous pouvez les voir là ? Je vous écoute. Voilà, la foi, l'espérance et l'amour. Il met l'amour en dernier parce que c'est le plus important et le plus durable. Maintenant, il dit, maintenant, voilà ce qui est permanent. Il a dit, voilà ce qui est temporaire, les langues, les prophéties, la connaissance. Mais maintenant, ce qui est permanent, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Pourquoi ? Parce que sans la foi, un chrétien, d'abord, on ne peut pas être sauvé, on ne peut pas avancer, on ne peut pas connaître Dieu, on ne peut pas plaire à Dieu. L'espérance, c'est l'attente de Christ, du retour. C'est l'attente de la justice, de l'accomplissement de notre salut. C'est ce qui nous donne envie de vivre. Si je n'ai pas d'espérance, ben, je ne vais pas me lever avec plaisir, je ne vais pas aller faire grand-chose hein, sans espérance. Beaucoup de gens ont perdu tout espoir. Quelquefois, ils se suicident, quelquefois, ils vivent comme des zombies. Un chrétien doit être rempli d'espérance. Et puis, l'amour. L'amour est particulier, c'est que l'amour ne s'éteindra jamais, ne disparaîtra jamais. La foi va disparaître un jour. Quand est-ce qu'elle va disparaître ? Quand on sera avec le Seigneur, quand on le verra de nos yeux, on n'aura plus besoin de la foi. Hein, c'est un verset de la Bible qui dit ça. Mais l'espérance, quand est-ce qu'elle va disparaître ? Quand elle sera accomplie, quand notre attente sera accomplie, encore une fois, quand le Seigneur reviendra. Mais l'amour, lui, va durer éternellement parce que Dieu est amour et que dans l'éternité, dans le ciel, nous serons en présence et on va nager dans l'amour de Dieu. Maintenant, les Corinthiens cherchaient le spectaculaire, je vous l'ai dit, et ils s'attachaient à des choses temporaires. Ils faisaient des compétitions de parler en langue. Et à côté de cela, ils se haïssaient les uns les autres. Ils se critiquaient. Ils critiquaient même les apôtres qui s'occupaient d'eux. Et Paul leur dit, « Je vais vous montrer la voie par excellence, ce qui est plus important, ce qui est permanent, la foi, l'espérance et l'amour. Et même, je vais vous montrer ce qui est éternel, l'amour. Si vous n'avez pas l'amour, vous passez à côté de la vie chrétienne. Si vous vous réunissez dans une église pour faire des compétitions de miracles, de connaissances, de prophéties, de parler en langue, vous n'avez rien compris à l'amour de Dieu. Parce que c'est dans l'édification les uns des autres qu'il y a l'amour de Dieu. C'est quand on s'encourage. Et ce ne sont pas forcément des choses spectaculaires. Appeler un frère ou une sœur qui est en difficulté, lui dire une parole réconfortante, prier, ce n'est pas forcément spectaculaire. Ça ne fait pas trembler les murs, forcément. Et en plus, c'est quelque chose des fois caché, quelque chose qui dure pendant des semaines, des mois. Mais les résultats, eux, sont spectaculaires. Par contre, si on fait de l'esbrouf dans le culte, dans l'église, ah, c'est impressionnant, les gens disent « Waouh, ça bouge ici, dis donc !» Mais ça bouge, mais c'est du vent. Et je terminerai ce matin avec le passage sur la maturité chrétienne. Au verset 9 à 12, « Nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Verset 9, il parle de connaître. Nous connaissons en partie, et verset 12 aussi, de connaître. De quelle connaissance parle-t-il ? Pas de la connaissance en général, pas de la culture générale, bien sûr, mais encore une fois, de connaître Dieu et son plan pour nous. Et il dit... Quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Qu'est-ce que c'est ce qui est parfait sera venu ? Gros débat théologique depuis des siècles sur ce verset. Il y a des choses certaines, c'est qu'il ne dit pas celui qui est parfait, mais ce qui est parfait. C'est neutre. Donc c'est une chose. Et jamais il n'est dit que Jésus-Christ est celui qui est parfait qui va venir. Il n'est jamais appelé comme ça, bien que Christ soit parfait, évidemment. Mais là, ce n'est pas le mot parfait dans le sens sans défaut, c'est le mot accompli, mature. Et on peut traduire, quand ce qui est mature, quand ce qui est accompli sera venu, ce qui est temporaire, de quoi on a parlé tout à l'heure des choses temporaires, disparaîtra. Quand il y aura la maturité, il n'y aura plus besoin des choses de l'enfance. Et c'est ce qu'il dit juste après, verset 11. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Comment parlent les petits bébés, les petits enfants ? Il y a un mot français que j'aime bien. Oui ? Ils babillent. Pourquoi on dit ce mot en français ? Parce qu'effectivement, les petits font babababababababab. Ils babillent. Ce qui est intéressant, c'est qu'au verset 1, quand il parle de la cymbale qui retentit, le mot « retentir », il emploie exprès un mot bizarre qui est en grec « lalasson ».« Lalasson », c'est « lalala », encore une fois, c'est cette idée de babiller. Et les Corinthiens babillaient dans l'église. « Blablabla, chalala, manamala, chalana, manamala ». C'était du babillage de bébé. Paul dit « Quand je suis devenu un homme, je suis passé à autre chose ». Quand je suis devenu un chrétien mûr, je passe à autre chose, à l'amour. Et il y a deux leçons pour nous dans cette phrase. D'abord, il y a un temps pour être un enfant et un temps pour être un adulte. Il ne faut pas voler l'enfance des enfants. Les enfants ont besoin de découvrir des choses, d'apprendre, de s'émerveiller. Et puis, il y a un âge où ils commencent à devenir plus mûrs et à devenir adultes. Malheureusement, nos enfants, on a tendance à rendre adultes les enfants, à leur faire connaître des choses qu'ils ne devraient pas connaître, à les exposer à des choses abominables dans leur enfance, qui les perturbent, qui les troublent. Par contre, quand ils sont adultes, on les garde comme des petits-enfants. Ils jouent comme des enfants, ils se comportent comme des enfants, ils n'ont pas de sens de responsabilité comme un adulte. C'est chacun pour soi, ils se querellent, ah, c'est toi, c'est moi. Des adultes, adolescents, les adolescents, vous connaissez les adolescents ? Ce sont des gens de la cinquantaine qui s'habillent comme des rockers ou comme des petites adolescentes, qui se maquillent, les cheveux longs, les couettes, etc., qui vont en boîte de nuit. Et la parole de Dieu dit, « Quand je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant, je suis passé à la responsabilité. » Un enfant, il veut s'amuser, se battre, il est immature, il est tourné vers lui-même, il se vante, il se fait mousser, il se plaint. Bon, ça, c'est le mauvais côté des enfants, ils ont des bons côtés aussi. Mais un adulte, il cherche le bien de l'autre. Il commence à sortir de lui-même. Et c'est ça, l'amour. Et nous sommes appelés, en tant que chrétiens, à sortir de nous-mêmes et à commencer à aimer les uns les autres. Mais pas dire « je t'aime », mais à manifester la charité les uns envers les autres. Le Seigneur veut que, en tant que disciples de Christ, nous manifestions ce qu'il y a de plus fort en Dieu, son amour. Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu a des océans d'amour à nous donner pour qu'on le partage avec les autres. Ce n'est pas notre amour qu'on va donner aux autres. Sincèrement, j'ai dans ma réserve 3 centilitres d'amour dans mon cœur. Et je ne vais pas plus loin que ça. Après, je suis tout de suite à sec. C'est-à-dire, je n'ai pas beaucoup d'amour par moi-même. Mais quand le Seigneur est entré dans ma vie, il a déversé des tonnes d'amour. Et tous les matins, il les a à ma disposition. Il suffit d'ouvrir le robinet et... Je me souviens de l'histoire de l'évangéliste Dwight Moody à Chicago, qui était un homme qui prêchait l'évangile avec beaucoup de zèle. Mais il lui manquait justement la profondeur de l'amour de Dieu dans sa vie. Et il y avait des dames qui priaient pour lui. Et elles étaient au premier rang chaque fois qu'il prêchait. Puis un jour, elles lui ont dit, « On prie pour vous. » Il dit, « Oh, merci, mesdames, vraiment, parce que vous n'êtes pas encore là. Hein, il vous manque des choses. Hein. » Alors, il était un peu vexé. Il pensait, lui, qu'il était déjà arrivé. Et elle savait de quoi elle parlait. Elle sentait qu'il lui manquait l'amour de Dieu, cette profondeur qui aime les âmes, qui est prêt à donner sa vie pour les gens. Et elles ont été exaucées, puisque quelques années ou mois après, il a eu une expérience très profonde avec le Seigneur, tout seul dans sa chambre, où l'amour de Dieu s'est déversé dans son âme. Il dit, je n'arrivais plus à le supporter tellement il y en avait. Il dit, j'ai failli me noyer. Et quand il est ressorti, il a prêché les mêmes messages, mais il y avait l'amour de Dieu. Et là, les gens commençaient à se tourner vers le Seigneur par dizaines, par centaines. Il a marqué les États-Unis et l'Angleterre par ses prédications. Ce n'est pas Moody qui a marqué les gens, c'est l'amour de Dieu dans Moody. Et nous aussi, chers amis, nous avons besoin de cet amour. Le monde se refroidit de plus en plus, devient de plus en plus violent, dur, individualiste. Et nous, on doit prendre l'autre chemin. L'amour de Dieu, ça doit commencer dans l'Église, dans la famille, et ça doit continuer au travail, dehors, partout, parce que le Seigneur veut que nous aimions notre prochain les uns les autres. Que le Seigneur nous aide à mettre en pratique sa parole et à ne pas aimer seulement en parole, mais en action et avec vérité. On va s'incliner.